Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
De retour sur Europe 1, c'est ce qu'on appelle un éco-festival. Le Cabaret Vert revient après 2 ans d'absence. 100 000 personnes attendues pour le grand concert de Stromae dès demain soir à Charleville-Mézières. On en parle juste après le journal. Europe 1, il est 19h. Le journal de la rédaction vous est présenté par Wilfried De Villers. Bonsoir Wilfried.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Emmanuel Macron appelle au retrait des forces russes de la centrale de Zaporijjia.
Annonce du président français après l'entretien téléphonique avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. À Colmar, la traque du tireur se poursuit après le meurtre d'un Afghan dans la nuit de dimanche à lundi. Vous entendrez les proches de la victime dans cette édition. Des orages violents et de forts risques d'inondation. 8 départements du sud de la France placés en alerte orange orage. On parle d'un phénomène méditerranéen. Et puis des excuses à la fin du journal, celle présentée par l'Académie des Oscars à une actrice amérindienne huée lors de sa montée sur scène, c'était en 1973.
Et la tendance météo, Anthony Kazmarek.
Et prudence, ces orages dans le sud-est devraient durer sans doute jusqu'à demain soir et toucher aussi la Côte d'Azur. Partout ailleurs demain, à nouveau, de fréquentes averses orageuses qui seront fortes en Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures vont baisser partout.
Voilà, vigilance dans le sud de la France. On y revient plus en détail, météo complète à la fin du journal. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont parlé ce matin.
C'est leur deuxième appel téléphonique depuis le début de l'été. Le président français a appelé son homologue ukrainien depuis le fort de Brégançon où il est en vacances. C'est là aussi où vous vous trouvez, Alexis de la Fontaine. Et au centre de la discussion entre les deux chefs d'État, la situation autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporijjia.
Oui, Emmanuel Macron appelle au retrait des forces russes de la zone, une nécessité pour assurer la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, affirme le président. Durant cet appel de presque 1h30, le chef de l'État a également soutenu l'envoi d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique, censée sécuriser les lieux. Ensuite, les deux présidents ont abordé l'exportation des céréales ukrainiennes, un enjeu majeur pour le pays, mais également pour faire face aux pénuries internationales. Sur ce sujet, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky sont d'accord pour poursuivre les départs maritimes depuis le port d'Odessa, mais également pour augmenter les exportations par la route à travers l'Europe. De son côté, Volodymyr Zelensky appelle à continuer les sanctions contre la Russie.
Alexis de la Fontaine depuis le fort de Brégançon dans le Var. Autre rendez-vous diplomatique pour Emmanuel Macron, cette visite en Algérie d'ici la fin de l'été. Selon le journal L'Opinion, elle devrait avoir lieu les 25 et 26 août prochains. Le président français, invité par son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, il devrait notamment aborder la question du conflit ukrainien et celle de l'approvisionnement européen en gaz, alors que l'Algérie est un important producteur gazier. Au sujet du gaz, justement, il y a un pays qui profite de la crise européenne, de ses pénuries liées à la guerre en Ukraine. Geoffrey Branger, la Norvège tire son épingle du jeu cette année.
Oui, le pays scandinave, grâce à la flambée du prix du gaz provoquée par la guerre en Ukraine, a plus que quadruplé ses exportations sur un an. Rien qu'en juillet, il a vendu pour environ 13 milliards d'euros de gaz naturel, un record. Ça s'explique notamment par la fermeture, puis la baisse de régime du gazoduc Nord Stream 1, qui achemine du gaz de Russie vers l'Europe. Les livraisons de gaz ne s'élèvent aujourd'hui qu'à 20% des capacités de l'infrastructure. Alors, pour compenser ce manque, les pays européens se tournent vers la Norvège notamment, qui produit en ce moment à plein régime pour couvrir la forte demande. Il faut dire que les pays d'Europe de l'Ouest cherchent par tous les moyens à rompre leur dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Pour que vous compreniez bien, avant le conflit, la Norvège couvrait environ 20% des besoins en gaz de l'Union européenne, alors que la Russie en fournissait près de la moitié. Aujourd'hui, ce rapport de force est clairement en train de s'inverser.
Geoffrey Branger du service économie d'Europe 1. En France, le retour sur les bancs de l'école, c'est dans 2 semaines, le 1er septembre. La rentrée scolaire, source d'importantes dépenses et encore plus à l'arrivée au collège. Selon l'association Famille de France, le coût de la rentrée pour un élève de 6e a augmenté de 4,5% cette année, soit environ 208 euros.
La traque se poursuit dans le Haut-Rhin pour retrouver le ou les meurtriers d'un jeune Afghan dimanche.
Il a été tué par balle. Le tireur, lui, est toujours en fuite, activement recherché par la police. Le jeune Afghan leur avait simplement demandé de faire moins de bruit avec leur scooter. Mélina Fachin, vous êtes sur place dans le quartier où se sont déroulés les faits. L'émotion des proches du jeune homme tué est évidemment toujours très vive.
Oui, je suis au pied de l'immeuble où le drame a eu lieu, là où vit Youssouf, le cousin d'Abdoul Kayoum, la victime. Ils étaient ensemble chez lui au moment des faits, dimanche vers 12h30.
Il était descendu pour acheter une boisson.
Mais les gars, ils s'entourent avec les squatteurs, ils font des bruits. Là, Kaïm Abdul, il a dit qu'il pouvait arrêter de bruits. Normalement, c'est interdit de rouler ici en squatteur. Et les gars, ils sont directs, ils ont dit, vas-y, nique ta merde, je m'en fous de toi. Après, ils ont fait des bagarres entre deux. Après, l'autre gars, il était parti, il a ramené d'autres personnes. Une personne qui était avec un pistolet, il a tiré. Et Abdul, il est tombé. Nous, on demande, il faut qu'il trouve les gars. Si on ne trouve pas, on va bloquer la rue, on fait manifestation jusqu'à ce que vous trouviez les gars.
Une marche blanche a eu lieu hier. Environ 160 personnes, essentiellement des Afghans comme Amanoula, sont venus réclamer justice pour Abdul Kayoum.
C'était un Afghan comme moi. Si on a quitté notre pays, c'est parce qu'on en avait marre de la guerre. On est venu ici en France pour vivre tranquille, sans risquer nos vies.
La victime était en effet réfugiée ici depuis 5 ans, père de deux petites filles restées en Afghanistan. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte. La procureure de Colmar indique ce soir que de nombreuses investigations sont en cours pour identifier les auteurs du crime.
Mélina Fachin, notre correspondante dans le Grand Est, a noté que des renforts de CRS sont arrivés aujourd'hui à Colmar.
Audience suspendue au procès de Benjamin Mendy en Angleterre.
Un report pour des raisons techniques. Le footballeur français est bien jugé en tout cas en ce moment pour des accusations d'agression sexuelle et de viol. L'une des victimes, âgée de 29 ans, devait normalement témoigner aujourd'hui. Elle s'exprimera finalement demain. On en sait tout de même plus sur le récit de l'accusation. À Chester, la correspondance de Laure Van Ruimbeek.
Les faits se seraient déroulés en octobre 2018 au domicile du joueur. Ils se sont croisés une fois, un an plus tôt, en boîte de nuit à Barcelone. Un autre footballeur et grand ami de Benjamin Mendy est également présent. Il s'agit de Diaco Fofana, avec qui elle garde contact. Toujours selon l'accusation, elle revoit Diaco Fofana à Manchester, qui l'amène dans la villa de Benjamin Mendy où elle passe la nuit. Alors qu'elle prend sa douche le lendemain, Benjamin Mendy entre dans la salle de bain. Il se caresse devant elle, il lui demande de rester nue. Elle refuse, le joueur la tire ensuite vers elle et tente de la violer, elle le repousse avec ses genoux. La victime ne se présentera pas au tribunal demain. Son récit et les questions qu'a pu lui poser l'avocat de Mendy ont été préenregistrées en mai dernier et seront visionnées à l'audience. Benjamin Mendy conteste les faits.
Laure Van Ruimbeek depuis le tribunal de Chester en Angleterre. En bref, elles sont suspectées d'être à l'origine de plusieurs incendies. 26 personnes ont été interpellées depuis le début de l'été en France, des présumés pyromanes en Gironde, en Bretagne ou encore dans l'Aveyron. 4 d'entre elles ont déjà été condamnées, 6 autres placées en détention provisoire.
Après des semaines de canicule, la France se prépare à une vague d'orages.
8 départements sont en alerte, orages violents et pluies, inondations. 80 à 100 voire 150 mm de précipitations sont attendues localement sur l'arc méditerranéen dans les heures à venir. C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie et ce phénomène a un nom, on parle d'un épisode méditerranéen. Il se produit généralement lorsque la température de la mer est chaude, mais d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. C'est ce que nous explique Frédéric Nathan, il est ingénieur prévisionniste à Météo France.
C'est d'abord la situation météorologique qui joue, quoi. C'est-à-dire que le fait que la Méditerranée soit chaude n'entraîne pas obligatoirement des épisodes méditerranéens. Il faut qu'il y ait une situation météorologique qui soit adaptée. C'est-à-dire l'arrivée d'air froid d'altitude, qui là provient du sud de l'Islande, qui arrive sur l'ouest, qui glisse le plus souvent jusqu'à l'Espagne et qui rentre en confrontation avec cet air très chaud méditerranéen. L'épisode méditerranéen, c'est quand on commence à avoir des cellules stationnaires, c'est-à-dire des orages qui durent assez longtemps et qui donnent de forts cumuls de pluie. Donc à partir de seuils de localement plus de 100 mm, on peut estimer que c'est un épisode méditerranéen. Mais c'est un épisode assez classique malgré tout, orageux d'été, qu'on a déjà vécu par le passé, le 9 août 2018, en 2006, un épisode en 2010, au mois de juin, donc ça arrive de temps en temps.
Propos recueillis par Clotilde Dumay. Météo France n'exclut pas l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur à partir du milieu de semaine prochaine sur la moitié sud du pays. Les conséquences dévastatrices de la sécheresse sur nos cultures. Selon la Fédération Légumes de France, les pertes de fruits et de légumes sont estimées entre 25 et 35% cette année. Une baisse de rendement qui pourrait se répercuter sur les prix. Un été particulièrement sec qui pourrait profiter à la qualité du vin cette année, oui. Mais la sécheresse a une conséquence, des vendanges qui se font beaucoup plus tôt que prévu. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous.
Dans la vallée du Rhône, elles ont même déjà débuté.
Oui, certains exploitants vont même battre de quelques jours le record de précocité de 2003, où la canicule, rappelez-vous, avait été historique. Delphine Rénoir, viticultrice à Mauves en Ardèche, s'apprête à vendanger ses 9 hectares de Saint-Joseph, un mois d'avance par rapport à l'année dernière, et c'est inédit.
En tant que viticultrice, oui, c'est la première année que je vais en manger aussitôt. La vigne, elle est bien avancée, elle souffre énormément de la chaleur, parce qu'il manque beaucoup d'eau. Donc il y a des endroits où il y a des feuilles grillées, enfin bon, c'est très sec. Les raisins, ils ont souffert de la chaleur, donc c'est des petits grains, on aura peut-être un peu moins de jus que les autres années, quoi, dû à la sécheresse.
Et si les rendements risquent de baisser avec la chaleur, ce n'est pas ce qui préoccupe particulièrement l'exploitante. Non, ce qui l'inquiète, c'est surtout un gros problème de recrutement. Pour les vendanges, il lui manque
entre 10 et 15 personnes. Quoi. Il faut des coupeurs, il faut des porteurs, et il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances. Voilà, déjà ça. Nous, c'est vrai que cette année, on n'avait pas trop prévu cette avance, et bon, on a pris des congés un peu tard, donc ça remet tout en question. Quoi.
Mais en tout cas, si les raisins sont récoltés à temps, Delphine Reynouard annonce un cru de grande qualité avec un vin, et surtout le rouge bonifié par le soleil, très sucré et fort en alcool.
Merci Thibaut.
Il n'est jamais trop tard pour demander pardon, même 50 ans après les faits.
Les excuses de l'Académie des Oscars à une actrice amérindienne. Elle s'appelle Sachin Littlefeather et avait été huée lors de la cérémonie de 1973. Bonsoir Marie Jiquel.
Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous.
Ce grand rendez-vous célébré ce soir-là, l'acteur Marlon Brando sur le point de recueillir pour la deuxième fois un Oscar.
Pour sa performance mythique dans Le Parrain, Marlon Brando, sacré meilleur acteur, est absent de la cérémonie qu'il a boycottée. On le sait, Marlon Brando était très engagé politiquement du côté des Afro-Américains et des Amérindiens. Il envoie donc sur scène à sa place la comédienne d'origine apache Sachin Littlefeather, vêtue d'un costume d'indienne. Elle refuse de prendre la tant convoitée statuette, une arme politique.
Il regrette, mais il ne peut pas accepter cette très généreuse récompense. Et la raison pour laquelle il ne peut pas accepter, c'est l'actuel traitement des Amérindiens par l'industrie du cinéma. Excusez-moi.
Situation confuse, pleine de malaise entre huées et applaudissements. John Wayne, le cow-boy d'Hollywood, aurait même tenté d'agresser la jeune actrice et militante. Près de 50 ans plus tard, le président de l'Académie lui a envoyé un courrier dans lequel il parle de fardeau émotionnel. Examen de conscience donc pour l'Académie. Avec humour et beaucoup de classe, Sachin Littlefeather a répondu via un communiqué. Nous, les Indiens, sommes des gens très patients. Cela ne fait que 50 ans. Pourtant, à Hollywood, les Amérindiens ne semblent toujours pas avoir trouvé une reconnaissance et un accueil chaleureux.
Marie Jiquel, spécialiste culture d'Europe 1.
Oui, toujours impressionnant, édifiant de regarder le passé avec les lunettes du présent. Merci Wilfried de Villers, la météo. Anthony Kazmarek, les orages vont s'étendre à tout le territoire demain.
Exactement, des averses orageuses très fréquentes. Une très grande partie de la journée, elles seront peut-être un peu moins fortes le matin près de la Manche. Dans l'après-midi, un peu plus d'éclaircies sans doute de la Champagne à l'Île-de-France et du centre-Val-de-Loire jusqu'aux plaines du Sud-Ouest. Et des orages sans doute forts aussi dans l'après-midi en Auvergne-Rhône-Alpes. Et prudence, ces orages, même si vous n'êtes pas en vigilance orange, peuvent tout de même s'avérer violents. Par exemple, ce soir en Île-de-France, on a relevé quasiment un mois de pluie en une heure à la station de Météo France de Paris. Donc prudence. Vigilance et surtout extrême vigilance dans le sud puisque nous avons, je vous le rappelle, 8 départements en vigilance orange pour un risque d'orage violent. Les voici, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, le Var et les Bouches-du-Rhône. Un épisode qui commence maintenant pour le Tarn, pour l'Aveyron et l'Aude et qui va se propager vers l'est dans le courant de la soirée. Cet épisode va durer jusqu'à demain soir. On attend d'ailleurs une deuxième salve d'orage à partir de demain, sans doute entre midi et 14h, et ça ira jusqu'à la Côte d'Azur. Prudence, on attend sans doute jusqu'à 130 litres d'eau par mètre carré et de phénomènes violents très intenses. Les températures après ces orages vont évidemment baisser. Ce sera parfois frais dans le sud demain après-midi. Il fera 20 degrés à Saint-Brieuc, 21 à Aurillac et à Brest, 23 à Nantes et à Clermont-Ferrand, 25 seulement à Nîmes, tout comme à Orléans, 26 à Paris et Bordeaux, 27 pour Lille, 29 à Strasbourg et un exceptionnel 35 degrés. Ce sera uniquement pour le sud de la Corse à Ajaccio.
Le temps avec Anthony Kazmarek. Merci Anthony, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo vers 22h sur Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1, on va se donner un peu le sourire dans quelques instants. Nous allons pour cela dans les Ardennes. À tout de suite.